BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission où cette semaine nous avons l'honneur de recevoir une nouvelle association. Il s'agit de l'association des guides et scouts d'Europe, présentée par Guilhem de Crémier. Alors tout d'abord, bonjour Guilhem, comment allez-vous?
Très bien, merci, bonjour Robin.
On profite, il y a un peu de beau temps, je pense que ça vous fait plaisir en tant que scout.
Ça fait très plaisir, bien sûr.
Avant de parler donc de l'association des guides et scouts d'Europe, on va parler quand même un petit peu plus de vous. Qui êtes-vous pour nos auditeurs? Vraiment, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Eh bien, comme vous l'avez dit, je m'appelle Guilhem et je suis étudiant dans le paramédical à Évreux. Voilà, et chef scout depuis maintenant quelques années pour les scouts d'Europe.
Et comment est-ce que vous êtes devenu scout? Voilà, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce monde?
De manière un peu classique, comme beaucoup de scouts, je suis devenu scout donc à l'âge de 8 ans pour les Louveteaux. Et quand je faisais beaucoup d'activités à côté, j'ai dû arrêter vers l'âge de 10-11 ans. Et j'ai repris avec mes copains à l'âge de 16 ans, puis depuis j'ai pas arrêté.
Qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé dans ce monde?
À l'âge de 8 ans, c'était surtout l'aventure et puis le fait de se retrouver entre copains. Et puis quand j'ai repris vers 16 ans, c'était le côté éducatif, c'était le fait d'apporter quelque chose à des jeunes, à une nouvelle génération. C'était de donner de mon temps pour l'éducation des plus jeunes.
C'est ça vraiment qui vous intéresse aujourd'hui, c'est transmettre un petit peu.
C'est toujours ça qui m'intéresse aujourd'hui, ouais. Toutes ces années après, ouais.
Alors on va passer un petit peu sur vos études. Vous avez dit, vous faites des études dans le paramédical, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Et à côté de ça, vous faites beaucoup de choses en même temps pour les scouts d'Europe. Ça doit être assez rapide, ça doit être une vie assez intense.
C'est assez intense, c'est assez dense, mais c'est toujours intéressant. Et quelque chose que j'ai fait des fonctions qui étaient très, très différentes. J'ai même été pendant un an et demi réalisateur pour les scouts d'Europe, pour ce qu'on appelle l'ETN Vidéo, l'équipe technique nationale vidéo. Mais c'est toujours super intéressant, il y a toujours une bonne ambiance, et c'est top.
Ouais, parce qu'encore aujourd'hui, vous avez plusieurs fonctions au sein de l'association des guides et scouts d'Europe, c'est ça?
Tout à fait, je suis donc assistant chef de troupe, donc chef scout en fait pour la première Vernon. Et je suis également responsable de la communication pour la province Yvelines Sud, donc pour les districts de Rambouillet et Saint-Quentin-en-Yvelines.
Et à côté de ça, vous avez vos études à Évreux, donc ça fait
et ça un fait, peu oui, partout. Ça fait beaucoup de déplacements.
Passons sur l'association des guides et scouts d'Europe. Présentez-nous l'association, qu'est-ce que c'est que cette association?
L'association des guides et scouts d'Europe, donc c'est tout simplement une association de loi 1901 qui a pour but l'éducation des plus jeunes. Il y a une phrase qui résume assez bien le scoutisme, c'est l'éducation du jeune par le jeune. C'est-à-dire qu'on va s'occuper d'enfants qui ont entre 8 et 17 ans, et ces enfants sont encadrés par des jeunes qui ont 20-25 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment l'éducation, la coéducation de ces jeunes.
Et depuis quand est-ce qu'elle existe, cette association?
Alors le scoutisme, en fait, en lui-même a été créé en 1907 par un grand homme qui s'appelait Baden-Powell, en Angleterre. Et en fait, le scoutisme est arrivé en France en 1920 grâce au père Jacques Sevin. Et les bases vraiment du scoutisme européen ont été mises en place en 1956 environ.
D'accord, oui, ça reste assez... Bon, c'est pas non plus ancien, mais ça reste plutôt récent, mine de rien. C'est que le
c'est
siècle
ça.
D'avant.
C'est
C'est quoi un scout, quoi, en fait, au final?
Qu'est-ce qu'un scout? C'est une bonne question. Je pense que c'est quelqu'un qui porte des valeurs, qui porte les valeurs du scoutisme, tout simplement. Qui va mettre son service, qui va mettre sa force au service des autres, qui va porter toutes les valeurs que l'on va lui apprendre. C'est quelqu'un qui vraiment va vivre quelque part pour les autres, qui va vraiment aider sans jamais en attendre de retour.
D'accord, c'est vraiment le don de soi, quoi, au final.
C'est vraiment le fait de se donner, exactement.
Et donc les valeurs du scoutisme, d'une manière assez détaillée, pour vous, qu'est-ce qui fait un bon scout au final?
Je dirais que le scoutisme a quatre grands piliers. Premièrement, il y a le mouvement scout en lui-même, c'est-à-dire c'est vraiment la formation de jeunes citoyens qui demain deviendront utiles à leur pays. Il y a également un côté éducatif, donc ça c'est pour toute la partie scout. Il y a également le fait que ce soit un mouvement européen. C'est-à-dire que vraiment l'objectif du scoutisme européen, c'est de se connaître à travers les pays européens. Et c'est notamment, voilà, c'est pour ça que cette association a été créée, c'est pour éviter qu'on se remette sur la tête tous les 10 ans. Donc vraiment, c'est le fait de s'apprendre, de se connaître. Et je dirais que les deux autres piliers, déjà c'est un mouvement qui est chrétien, c'est un mouvement qui est catholique et qui est très inscrit dedans. Voilà, il y a une vraie facette religieuse. Et c'est enfin un mouvement citoyen. L'objectif, comme disait bien Baden-Powell, c'est le civisme à l'école des bois.
C'est beau comme phrase un peu.
C'est joli.
C'est joli. Au niveau de la religion, donc du coup vous l'avez dit, c'est chrétien. Comment est-ce que ça se fait au final que ce scoutisme, ça soit traduit avec la chrétienté?
Comment ça se fait? C'est que bah, déjà de base le scoutisme en lui-même créé par Baden-Powell était lié à la religion, non pas au catholicisme, mais il était déjà lié. Quand le père Jacques Sevin l'a amené en France, il y a forcément ajouté une facette catholique. Voilà. Mais je pense que il est important en fait que ces jeunes puissent en même temps s'inscrire pour leur pays et dans leur religion. Ce sont deux choses qui sont tout à fait compatibles, je pense. Et d'une certaine manière, on se sert aussi, on profite de la religion pour les aider à grandir et qu'ils deviennent les hommes avec un courage de demain.
Est-ce qu'un scout peut venir sans être baptisé, sans avoir vraiment de connaissances religieuses?
Tout à fait.
Ou c'est vraiment ouvert à tout le monde?
Tout le monde peut venir. Alors la seule petite... Donc voilà, tout le monde peut venir au Scout d'Europe, tout le monde peut venir découvrir, bien sûr, on les accueillera avec grande joie. À la seule particularité, c'est que pour progresser, parce que forcément, du coup, à chaque tranche d'âge, il y a une progression. L'une des plus grosses progressions dans chaque branche, c'est la promesse. Et pour faire cette promesse, il faut être baptisé ou en voie du baptême.
D'accord.
En raison très simple, c'est qu'on promet devant Dieu. Donc du coup, c'est relativement logique. Derrière, il faut quand même croire en minimum en Dieu.
D'accord, oui. Donc on peut arriver sans être spécialement religieux, mais si on veut vraiment progresser et s'investir à fond dans le scoutisme, on le devient quoi, au final religieux.
C'est ça, tout à fait. Voilà.
Alors vous nous disiez plusieurs niveaux au sein du scoutisme. Comment est-ce que ça se traduit, ces niveaux? À quoi ça ressemble, ces niveaux?
C'est ce qu'on appelle en fait des branches. Donc une branche, c'est tout simplement une tranche d'âge. Hein. Donc tout d'abord, vous avez la branche jaune qui est pour les 8-12 ans. Donc on appelle ça des louveteaux pour les garçons, les louvettes pour les filles. Et l'unité de vie se fait donc à 24 louveteaux plus les chefs. 24 louveteaux plus les chefs, on appelle ça la famille heureuse. Ensuite, vous avez la branche verte, donc pour les 12-17 ans, les scouts et les guides. Et donc là, pour le coup, l'unité de vie, c'est ce qu'on appelle une patrouille. C'est un ensemble de 5, 6, 7, 8 garçons ou filles qui du coup vont vraiment vivre ensemble. Et cette patrouille est sous la responsabilité d'un chef de patrouille qui a environ 17 ans.
D'accord.
Et qui a la responsabilité du coup de ces jeunes. Et ensuite vous avez la branche rouge, qui est la branche aînée du mouvement pour les plus grands, qui va donc de 17 ans à plus l'infini. Et vous pouvez... on appelle ça les routiers pour les garçons et les guides aînés pour les filles.
Qu'est-ce que ça veut dire routier? Qu'est-ce que ça veut dire guide aîné?
En fait, c'est simplement parce qu'on vit ce qu'on appelle la route. Autant pour les scouts et les louveteaux, louvettes, scouts et guides, ça se fait. Les camps se font de manière très localisée. Les tentes sont montées, on reste au même endroit pendant une semaine, etc. Autant pour les routiers, les guides aînés, pour le coup, on va vraiment vivre la route. On va marcher pendant des jours. On va visiter des lieux absolument magnifiques, des décors incroyables. Mais du coup, c'est le fait aussi de profiter de cette marche pour réfléchir à soi, pour discuter, pour méditer, etc.
Est-ce que vous en profitez un petit peu dans ce genre de marche, puisque ça peut nous faire penser à des pèlerinages au final? Ça ressemble un petit peu ou rien à voir?
C'est un peu un pèlerinage. Alors oui, c'est un peu, on peut appeler ça une sorte de pèlerinage, d'une certaine manière, parce que très souvent, on a quand même un objectif d'aller quelque part. Mais on a aussi cet objectif de réfléchir, de profiter de cette marche pour vraiment discuter avec les autres, pour réfléchir sur soi, pour vraiment prendre le temps aussi pour soi, ce qui aujourd'hui est relativement rare quand même.
Prendre le temps pour soi et prendre le temps de connaître mieux les personnes avec qui on est justement dans ce scoutisme.
C'est ça, tout à fait, oui.
Et un week-end, alors que ce soit pour les plus jeunes ou les plus anciens, présentez-nous un petit peu comment est-ce que ça se passe du coup, une sortie, on va dire, pour les scouts.
Il y a différents types de sorties. Donc déjà ce qu'on appelle les réunions, dans ce cas-là, la plupart du temps, c'est le samedi après-midi. Les sorties, donc là, ça va être le dimanche, quasiment toute la journée. Vous avez également les week-ends, qui dans ce cas-là se passent sur 24 ou 48 heures. Et ensuite, vous avez les camps d'été, où là, pour le coup, on peut partir entre 5 jours et 2 semaines. Voilà. Mais pareil, en fonction des branches, ça va être très différent. C'est-à-dire que les louveteaux ou louvettes, c'est rare qu'on fasse une activité de plus de 24 heures.
D'accord.
Parce que dans ce cas-là, ils sont trop fatigués. Pareil, le camp, il va durer 7-8 jours au grand maximum. Par contre, pour les éclaireurs et les guides et scouts, là, pour le coup, le camp peut durer plus de 2 semaines. Voilà, donc c'est assez différent. Pareil, de la même manière, pour les louveteaux ou louvettes, toutes les activités se font en meute, avec tous les louveteaux. Alors que les scouts et les guides peuvent se retrouver en patrouille, uniquement, ou alors en troupe ou en compagnie, donc avec toutes les patrouilles réunies.
Quand vous parliez des activités, c'est quoi le genre d'activité que vous pouvez proposer en week-end?
En week-end, donc la plupart du temps, il y a une partie déjà de campisme, où on va monter les tentes, on va vraiment s'installer. C'est aussi une préparation pour le camp d'été, forcément voilà, on profite d'avoir de devoir camper sur une petite période de temps pour leur apprendre à monter une tente, à faire du feu, etc. Il y a déjà voilà, une sorte de préparation du camp. Et globalement, les activités, bon, très souvent il y a la messe, il va y avoir des activités spi, également des activités souvent physiques. Il y a des grands jeux, des grandes chasses, il va y avoir des activités techniques, on va leur apprendre plein de techniques scouts, faire des nœuds, faire du feu, faire de l'utilisation du bois, etc. Donc, ce sont des activités assez diversifiées, mais pareil, qui dépendent vraiment de chaque branche d'âge et de ses objectifs.
Et quand vous partez dans des sorties, que ce soit donc soit le week-end, soit les camps d'été, est-ce que vous êtes accompagné par un prêtre, un curé ou non ?
Ça peut arriver. Alors pour le camp, on essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours un prêtre qui vienne au moins une journée. Et après, pour les week-ends et les sorties, très souvent, ça dépend de leur emploi du temps.
Oui, j'imagine
voilà.
qu'il y a...
Mais globalement, on essaie d'avoir... Voilà, le prêtre, en fait, fait partie... Ce qu'on appelle la maîtrise en scout, c'est l'ensemble des chefs. Donc le chef d'unité, les assistants et également le conseiller religieux. Et on dit que le conseiller religieux fait partie intégrante de la maîtrise.
Pour Vernon en elle-même, les scouts, où est-ce que vous pouvez aller ? Alors, est-ce que vous restez vraiment dans un côté local ou est-ce que vous pouvez vous autoriser à aller un peu partout en France ?
Alors pareil, ça va dépendre beaucoup des branches d'âge. Pour les louvetes, on évite vraiment, déjà parce que les activités sont plus courtes. Parce que pour un enfant de 8 ans, il est inutile de partir à l'autre bout de la France. Déjà, il va à une heure de chez lui, c'est déjà, voilà, il va vraiment être dépaysé. Donc voilà, pareil, par contre, après pour les scouts, ça va dépendre des activités, des nécessités. En plus, la troupe de Vernon a l'ambition de devenir nautique. Donc là, forcément, voilà, ils vont devoir faire un peu plus de kilomètres. Mais pareil, il n'y a pas vraiment de règles. À part pour les louvetes, on est vraiment limité. Et même pour les camps, on se limite à 200 km à la ronde.
Quand vous dites que vous avez l'ambition de devenir nautique, du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs manières de faire un petit peu du scoutisme ?
C'est ça, il y a plusieurs. On peut dire ça. En fait, il y a différents types de troupes. Vous avez les troupes terre, qui sont entre guillemets les troupes classiques. Et sont, voilà, c'est la plupart
celles
des troupes.
Celles qu'on connaît tous, qu'on
exactement.
A entendues, qu'on a déjà vues dans des films, des séries.
C'est ça, exactement. Non, c'est vraiment la troupe la plus classique qu'on va retrouver la plupart du temps, en France en tout cas. Après, vous avez les troupes nautiques et les troupes marines, qui du coup se spécialisent principalement sur la mer, les lacs, les rivières, au niveau de la navigation, etc. Donc là, ils vont vivre sur des bateaux, ils vont faire vraiment des aventures nautiques. Vous avez également les troupes montagne. Donc là, bon, forcément, après, ça dépend de la géolocalisation de la troupe.
Un peu plus compliqué ici.
Un peu plus compliqué à Vernon, c'est vrai. Mais voilà, qui vont du coup vivre principalement de la montagne, etc., avec toutes les spécificités que ça comporte.
Et comment ça se passe au niveau de la nourriture dans ces camps d'été, au niveau des... Et comment est-ce que ça se passe ? Vous retrouvez à cueillir ou à chasser ou...
Ça se passe très bien, je vous rassure. Il ne meurt pas de faim. Non, globalement, on fait comme tout le monde au supermarché.
D'accord.
Voilà, les chefs vont faire les courses.
Prenez les provisions avant. Et...
C'est ça, voilà, la plupart du temps, on prend tout ce qu'on peut avant le camp. Ça évite de faire des trop grandes courses pendant. Et puis évidemment, tout ce qui est produits frais, on les prend au fur et à mesure. Après, c'est, voilà, ça dépend des chefs. Et par contre, pour tout ce qui est cuisine, la plupart du temps, ça se fait au feu.
Oui.
Voilà, il y a toutes les... Mais non, on ne chasse pas.
ça aurait pu, on pouvait se poser la question, savoir.
Oui, mais on a souvent des questions de ce genre, rassurez-vous.
J'imagine bien. Et c'est pareil au niveau du feu, j'imagine que vous avez tout un travail, parce que quand vous êtes en plein milieu de la forêt, il faut quand même bien sécuriser le feu.
Ça fait partie des techniques qu'on leur apprend, tout ouais. à fait. La sécurisation d'un feu, comment est-ce qu'on fait ? Voilà, le fait d'avoir toujours un jerrycan d'eau à côté. Ça peut paraître la base, mais ça on leur apprend, on est extrêmement vigilant à ça. Pareil, comment est-ce qu'on maîtrise son feu ? Comment est-ce qu'on l'allume ? Comment est-ce qu'on le fait ? On le fait pas n'importe où. S'il y a des branches qui sont trop basses, on le fait pas à cet endroit-là, on le décale, etc. Pareil, on évite de le faire directement à même le sol. On essaie de monter ce qu'on appelle une table à feu. Mais d'accord. Comment est-ce qu'on fait une table à feu ? Qu'est-ce qu'on met dessus ? Etc. Ça fait partie de toutes ces techniques qu'on leur apprend. Et après, il y a toute la logique qui vient derrière.
Oui, parce qu'au niveau du feu... Moi, je croyais qu'il y avait une technique où on pouvait creuser aussi à l'intérieur, on mettait des cailloux autour, mais
tout
vous
fait, ouais.
préférez le surélever du coup.
La plupart du temps, quand on creuse, c'est pour des petites périodes.
D'accord.
Quand on reste un ou deux jours ici. Par contre, quand on reste deux semaines, dans ce cas-là, pour éviter de se casser le dos à cuisiner
oui,
par
c'est
terre
vrai.
À manger, dans ce cas-là, on essaie de surélever un peu le feu.
Il y a une notion de confort après.
C'est ça, voilà. Forcément, pour deux semaines, on essaie de bien s'installer. Aussi bien pour le feu que pour toutes les autres installations, les tables, les tentes, etc.
Et alors, en temps normal, comment, tous les combien de temps déjà, est-ce que vous pouvez proposer des sorties le week-end ou les camps d'été, j'imagine que c'est tous les étés déjà.
Exactement, c'est parfait. Au niveau des activités de l'année, ça paraît, ça dépend énormément des périodes, des vacances, des disponibilités des chefs, etc. Parce qu'on a tous, on est très régulièrement en partiel, etc. Mais globalement, on essaie de se retrouver une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les deux, trois semaines. Ça, ça reste un programme qui est relativement réaliste et faisable. Pareil, ça dépend en fonction des vacances des jeunes, etc.
Même l'hiver, vous essayez de sortir ou...
Même l'hiver.
Même l'hiver, d'accord.
Même l'hiver.
Parce qu'on sait que la météo dans le coin, elle n'est pas toujours très évidente, donc j'imagine que ça ne doit pas être toujours très, très facile, ce genre de sortie.
Bon, globalement, ça se fait. On se couvre bien et puis c'est parti. Non, il y a aussi une notion de volonté d'y aller. Ouais. Pas parce qu'il fait un peu froid, parce qu'il a plus 3 gouttes qu'on annule l'activité.
D'accord.
Sauf si vraiment il y a un problème météorologique. Ça m'est déjà arrivé de devoir décaler une activité parce qu'il y avait des rafales de vent et que je voulais pas me retrouver en forêt avec des jeunes de 8 ans avec des rafales de vent et avec des branches qui pouvaient potentiellement tomber.
Ou j'imagine avec des risques d'orage pareil.
Exactement, voilà. Tout à fait. Dans ce cas-là, on essaie de trouver un lieu de secours à côté. Mmh. Ce qu'on fait notamment pour les camps, on a toujours un lieu à l'abri à côté. Au cas où, vraiment, en cas de dernière minute. Mais voilà, il y a une notion de sécurité, mais il y a également une notion un peu de sortir de sa zone de confort et de vraiment d'avoir la volonté d'y aller. Et bon, voilà, s'il y a 3 gouttes, on sort, c'est pas grave. Ça.
Question un peu plus personnelle en termes de sortie, en termes de camp que vous avez pu faire, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle destination vous a le plus marqué?
C'est une bonne question. En plus, j'en ai fait quelques-uns. Je pense que la destination qui m'a le plus marqué, c'était la route que j'ai fait avec mes amis. On a vraiment visité des lieux improbables, des lieux incroyables. On a vraiment passé un super moment. En plus, on était tous de la même génération, on se connaissait tous depuis des années. Et ça, c'était vraiment une superbe expérience. J'en garde de très bons souvenirs.
Vous étiez allé où
On était en Bourgogne et on avait marché pendant 10 jours. On avait bien marché à base de 25 km par jour.
D'accord. Donc, ah oui.
C'était oui, après on était une troupe, enfin on était une route plutôt, c'était un clan plutôt physique, hein. Ils étaient voilà.
Parce que mais j'imagine quand vous faites ce genre de marche de 10 jours, vous faites une boucle et vous vous retrouvez.
Non. Là en l'occurrence, on l'a fait de manière linéaire.
D'accord.
Mais c'est possible de faire en boucle techniquement. Tout à fait, ouais.
Est-ce que vous vous y rendez en transport
C'est ça. La plupart du temps, on part du point de départ. On y arrive en train ou d'une autre manière, en voiture. La plupart du temps, c'est en train. On arrive ensuite au point d'arrivée, donc après quelques jours de marche, puis on retourne chez nous en train.
D'accord, oui, vous arrivez toujours à trouver.
C'est ça, oui, on se débrouille.
Vous vous adaptez d'une manière assez, assez simple.
C'est ça, exactement.
Passons au niveau de la crise sanitaire. À quel point est-ce qu'elle vous a impacté? À quel point est-ce qu'elle a pu vous embêter, vous, au sein de l'association?
Forcément, elle nous a bien embêtés. Non, ben, disons, on n'est pas les plus à plaindre, mais c'est vrai que ça nous a quand même bien embêtés parce que la quasi-totalité de nos activités, on les fait, pour pas dire toutes nos activités, on les fait en extérieur.
Ouais.
Au contraire, voilà, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment à l'école des bois. Donc, quand vous retirez les bois, il n'y a plus que l'école et c'est plus très rigolo. Donc, forcément, ça nous a bien impacté. Après, je ne peux que féliciter et remercier tous les chefs qui se sont vraiment dévoués, qui ont fait preuve d'imagination pour créer des activités depuis chez soi, en visioconférence, etc. Ou même des activités sur papier à faire. Même si après, voilà, tous ces mois de confinement, reconfinement, déconfinement, l'imagination commence tout doucement à manquer. Mais en tout cas, non, vraiment, je peux que féliciter les chefs et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait.
Et là, vous pouvez commencer à repartir un petit peu plus sur les routes, c'est de mieux en mieux?
Là, c'est de mieux en mieux, oui. On peut reprendre les activités doucement avec quelques contraintes. Avant, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de nuit possible, etc. Forcément,
ouais.
On évite au maximum la proximité avec le port du masque, etc. Mais bon, ça commence tout doucement, malheureusement, à rentrer dans les mœurs. Donc, on reprend un peu des habitudes.
Et puis on a hâte que ça reparte d'une manière un peu plus normale.
C'est sûr.
On espère cet été.
Normalement cet été les camps sont pour le moment autorisés. Donc voilà.
Oui, puisque à partir du 30 juin, normalement toutes les mesures seront enlevées.
C'est ça, exactement.
Donc on espère que tout se passera le mieux pour vous pour cet été.
C'est vrai qu'on avait pu camper l'été dernier, on avait vu la différence et les enfants étaient ravis de se revoir et de retourner un peu dans les bois, courir dans tous les sens.
Ouais, parce que c'est un côté aussi de pouvoir retrouver sa liberté et c'est aussi le côté un peu du scoutisme aussi au final.
Tout à fait, c'est vraiment le feu. C'est génial pour des enfants de sortir, se retrouver entre eux, jouer, s'amuser, rigoler. C'est vraiment un pur plaisir.
Alors, pour conclure cette émission, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver?
Et bien déjà, on est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir la page officielle des Guides et Scouts d'Europe sur Facebook et puis sur Instagram. Et puis nous aussi à Vernon, on est sur les réseaux sociaux. Directement sur nos réseaux sociaux personnels. Donc vous avez les districts de Vernon, Paris, où on est sur Facebook et Instagram.
Eh bien, merci beaucoup, Guilhem de Crémier.
Merci à vous.
Merci d'être venu nous parler de l'Association des Guides et Scouts d'Europe. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.
BPM Vernon, 99.3.